Bonjour, eh bien nous nous retrouvons pour l'émission Les mots de la foi avec Elisabeth, Raymond Richard au micro et Guy est à la technique. Et nous poursuivons notre réflexion avec Bernard Sesboué qui a commis ce livre merveilleux, L'homme merveille de Dieu. Il est vraiment très bon ce livre. Et nous en étions à observer comment est décrite cette mort de Jésus et au travers de cette mort et des évangiles, le père Sesboué parle de la limpidité de Jésus en disant, eh bien, si l'on essaie de résumer, on s'arrêtera peut-être à ce qu'on me permettra d'appeler sa limpidité. Qu'est-ce à dire ?
Alors, c'est une sincérité qui ne s'accommode ni d'exagération ni des vaines promesses. C'est un naturel, une droiture d'intention qui est blessé par toute duplicité, par toute finaillerie, et qui dit « la lampe de ton cœur, c'est l'œil. Si ton œil est simple, tout ton cœur sera lumineux. » Donc, il n'y a rien qui vient ternir cette limpidité.
Non, c'est vrai qu'à notre époque, où justement les discours souvent sont alambiqués, à double sens, cette limpidité rafraîchit.
Oui. Et Jésus, par cette limpidité, manifeste son excellence, mais sans nous écraser. Il manifeste sa transcendance en partageant la condition de tout le monde.
Je cite le texte. « De la pure plénitude de l'être divin, la vie intime de Jésus offre la plus belle image qu'il ait été donnée aux hommes de contempler. » Je poursuis. « Les richesses évangéliques, pour autant qu'on peut sommairement les inventorier, trouvent leur ordre, leur équilibre, leur achèvement dans l'incomparable limpidité de cette âme. » Bon, l'objectif donc c'est de vivre aussi comme Jésus, comme il accomplit la vocation de l'homme. Mais effectivement, si on s'arrête à la mort, vaine est notre foi. Et il y a la résurrection qui est révélation de la vie. Donc, la mort de Jésus, c'est le sommet du témoignage de l'excellence de sa vie, on vient de dire, de cette limpidité, de cette droiture. Mais sur quoi débouche cette mort exemplaire ? C'est là la question.
C'est la question et la réponse, c'est la résurrection de Jésus, qui est à la fois révélation et don. Jésus ressuscité est témoignage de vie par excellence.
Alors on peut s'interroger aussi, Jésus a ressuscité dans les évangiles, on nous parle de la résurrection de Lazare, mais ça n'est pas de la même nature.
Non, parce que le Christ ressuscité, lui, ne meurt plus. Et il manifeste ce qu'est la vie éternelle qui est réalisée en lui.
C'est vrai que c'est une question, puisque dans les évangiles, personne n'est témoin de la résurrection. Simplement, on rencontre le Christ vivant après sa mise au tombeau, après sa mort donc. Et c'est vrai que cette résurrection, qui, donc réalité accomplie pour les chrétiens, pour les croyants, est prémisse de notre résurrection à nous.
Oui, parce que être sauvé, c'est vivre toujours, vivre dans l'amour reçu et communiqué, dans la réconciliation avec nous-mêmes, avec les autres, avec l'univers et avec Dieu.
Alors c'est vrai que c'est difficile à expliquer parce qu'on nous dit l'éternité. Moi je me dis si l'éternité, alors admettons, être sur la plage et contempler la mer, c'est, je me dis l'éternité là, il me semble que ça me fatiguerait.
Oui, mais l'éternité c'est justement être en dehors du temps. Alors c'est plus du côté de l'instant, d'un instant exceptionnel, un instant extraordinaire de bonheur qu'on ne peut pas comprendre ici, ici-bas, parce qu'on est dans le temps.
Donc en fait, on est dans un autre monde.
Oui.
Ce qui est derrière la mort, effectivement.
Oui. Et c'est pour ça
reste un mystère, là, pour le coup. Ouais,
que le monde de la résurrection, c'est pas possible de le représenter.
Et alors, donc, quelque chose de fugitif aussi. Un commencement qui ira de commencement en commencement vers des commencements toujours nouveaux. Donc là, ça veut dire quand même que ce ne sera pas la lassitude du bord de mer que j'évoquais précédemment.
Non, non. Et alors, c'est les apparitions de Jésus à ses disciples peuvent nous donner un petit peu un pressentiment de ce que ça peut être.
Oui, puisque effectivement, à chaque fois, ça provoque chez les disciples un courage, une joie immense, et un courage qui leur permet après de témoigner jusqu'à donner leur vie et jusqu'au bout du monde. Donc on a là quand même le sens que c'est quelque chose d'extraordinaire. Puisque nous dit le père Sesboué, les disciples sont en quelque sorte déjà ressuscités avec Jésus.
Et c'est ce que Paul
propose pour nous-mêmes.
Il dit, enseveli avec lui dans le baptême, avec lui encore vous avez été ressuscités, parce que vous avez cru en la force de Dieu qu'il a ressuscité des morts. Donc nous sommes ressuscités.
Dans le monde de la résurrection, quelquefois on a du mal à y croire, tant les réalités du monde d'aujourd'hui sont peu intéressantes, mais on a quelque chose d'assez exceptionnel dans ce passage des disciples d'Emmaüs, justement, sur ce cheminement des hommes avec le ressuscité. Parlons-en.
Oui, parce que le récit nous montre que ces deux disciples qui quittent Jérusalem, déçus par la mort du Christ et désespérés par la passion. Ils disent qu'ils espéraient et que cette espérance, cette fois, s'est volatilisée devant l'horreur,
devant la réalité de la crucifixion. Alors, le texte nous rappelle que, pas tout à fait, ils font état du témoignage des femmes. Enfin bon. Oui.
Parce que en cheminant avec Jésus, bon, ils disent, bon, les femmes ont dit, on l'a vu qu'il est ressuscité, mais ils n'y croient pas. Et oui. Alors, c'est Jésus qui va cheminer avec eux et leur expliquer les Écritures et expliquer comment les Écritures annonçaient sa mort et sa résurrection.
Alors, il enseigne, il ouvre le message des Écritures et il change les cœurs. Il n'a pas changé. Et puis, il est reconnu. Et ça aussi, ça me paraît intéressant. Parce qu'il n'est pas reconnu n'importe où ou non, n'importe comment.
N'importe comment, il est reconnu à la fraction du pain, par un geste qui le révèle depuis, nous dit le père Sesboué, la première multiplication des pains. Et c'est ce geste qui fait que les disciples le reconnaissent vraiment.
Alors la multiplication des pains et la multiplication de Jésus lui-même qui se donne,
oui.
Puisqu'en fait c'est l'Eucharistie déjà qui est en présence. Et alors on passe de ce fait de la vie de Jésus à la vie de l'Église. Et là c'est un peu plus difficile, en tout cas pour nos contemporains, parce que certains, assez nombreux, nous disent Jésus oui, mais l'Église non. Et pourtant.
Oui, Jésus est venu pour la multitude, et c'est vrai que ça n'a pas changé grand-chose. Il y a toujours le mal, le péché, la mort dans notre monde. L'homme est toujours un loup pour l'homme. Et dans notre monde, c'est toujours cette question, comment le monde est-il sauvé ?
Voilà, c'est ça. En quoi notre monde montre-t-il qu'il est sauvé ? Et alors qu'on parle souvent du transhumanisme, là aussi il y a un transhumanisme, un saut dans le mystère et un saut dans la foi. Mais c'est vrai que le père Sesboué dit, les apparences ne sont pas avec nous. Alors, comment la foi chrétienne interprète-t-elle la situation présente ? Qu'est-ce qu'elle nous promet ?
Et les réponses pour le présent, dit le père Sesboué, tiennent à l'institution de l'Église et son rôle pour le salut de l'humanité.
Voilà, alors c'est là que c'est une difficulté, puisque effectivement l'Église, sacrement du salut des hommes dans le temps d'histoire, c'est vrai qu'il y a des pages merveilleuses et il y a, reconnaissons-le, la dignité de la femme, c'est quand même quelque chose qui vient du monde chrétien, l'adoucissement des mœurs au Moyen-Âge, ça vient du monde chrétien, un certain nombre de réalisations sociales, ça vient du monde chrétien. Et puis à côté, il y a tant de misère, tant de souffrance. Mais, hélas, je trouve que c'est une page importante. La résurrection de la chair concerne l'être humain tout entier. Et il évoque le corps. Le corps, c'est nous-mêmes. Oui. Donc là, derrière ce fait de ce renvoi à l'Église, il renvoie aussi à une expérience de résurrection pour chacun d'entre nous. Ce n'est pas une résurrection dans le vague ou quelque chose de très général, mais nous sommes promis à la résurrection. Notre corps est le lieu même de notre vie, de nos amours, de notre travail créateur, de nos souffrances comme de nos joies. Il est tout différent d'un corps animal. Il est porteur d'intelligence, de volonté et d'amour. Donc, ce qu'on nous promet, ce que l'Église promet, c'est la résurrection de la chair pour passer de notre corps vivant actuel au corps glorieux, comme celui du Christ.
Oui, et ce corps glorieux, c'est notre identité, notre mémoire. Mais en attendant ce passage dans le corps glorieux, il y a le temps de l'Église, qui est le corps dont le Christ est la tête, l'épouse pour laquelle il s'est livré, qui vit déjà, dans une certaine façon, de la résurrection, mais qui l'attend comme un avenir espéré dans la foi.
Donc nous retrouvons là un avenir espéré qui est quelquefois déjà là, dans ces expériences de transcendance, de luminosité, qui sont celles de chacun d'entre nous, à un moment ou à l'autre, mais en même temps, l'espérance est quelquefois courte, et le pas encore intervient. Et pourtant, le Christ nous dit, eh bien, pour tenir cette foi, il y a le don de l'Esprit. Et là, je trouve qu'il y a une des pages les plus belles de ce livre.
Oui, parce
c'est
que...
C'est quoi le don d'Esprit? Et je pense qu'on y reviendra, parce que le temps s'écoule. Mais tout de même...
Ce don de l'Esprit qui nous fait comprendre, en vérité, l'Évangile. Cet Esprit que le Christ a donné depuis la Pentecôte, qui est ce qui fait notre résurrection.
Alors pour terminer, peut-être on peut lire justement ce que l'Esprit est lorsqu'il habite en nous, cet espace intérieur de notre propre conscience.
Oui, cet espace intérieur comporte deux pôles, dit le Père Sesboué. Le pôle objectif, grâce auquel nous parlons, agissons, entrons en relation avec les autres. C'est le langage, l'expression, la thématisation de notre savoir. Mais il est un autre pôle, le pôle originaire de notre conscience, le pôle du jaillissement inventif de nos pensées, le pôle où nous sommes habités par le désir de l'absolu. Et c'est quelque chose qui se dérobe à notre investigation directe. C'est là que passe de l'inconscient au conscient toute réflexion, tout événement de conscience.
Et qui permet d'inventer les mots nécessaires pour nous dire à nous-mêmes avant de pouvoir le dire aux autres. Eh bien voilà, c'est le mot de la fin et nous reviendrons sur ce qu'est cet esprit la semaine prochaine. Bonne semaine à tous, au revoir.